Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Blaise Chindani Kambala. D'abord les titres de ce journal. La pluie diluvienne qui continue à s'abattre ce dimanche sur la ville de Kinshasa a laissé beaucoup de dégâts dans les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Par exemple, plusieurs maisons ont été inondées, empêchant les familles de se mouvoir comme d'habitude. Notre reporter a circulé dans ces trois communes. Les explications dans un instant. Les parlements d'enfants pour la partie Grand Nord Kivu a révélé samedi qu'au moins 88 écoles et 55 000 élèves ont été affectés par l'insécurité dans plusieurs zones de santé depuis le mois de novembre de l'année dernière. C'était lors d'une formation à la protection de l'enfant. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, environ 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers des activités génératrices de revenus grâce au projet Star Est. Pour en parler, nous recevons Jean-Claude Kassomo, le coordonnateur provincial des Star Est. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonne journée dominicale, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez présentement sur la radio de la paix. La pluie diluvienne qui s'est abattue ce dimanche sur la ville de Kinshasa n'a pas été porteuse de bonheur. Dans les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala, plusieurs maisons ont été inondées, empêchant les familles de se mouvoir comme d'habitude. Les principales voies d'accès de ces municipalités sont encore sous les eaux, notamment Kabambaré, Croix-Rouge, Kabinda, Wileri, Nyangwe, Ex-Flambeau et Ex-Bokassa. Les habitants interrogés par Radio Kapi appellent le gouverneur Daniel Bumba à accélérer les travaux d'assainissement de la ville. Reportage signé Blaise Ndongala Mayanda.
La pluie qui s'est abattue ce dimanche sur la capitale congolaise a inondé plusieurs maisons, rues, avenues, quartiers, empêchant les habitants de sortir de chez eux. Même les plus croyants ont été incapables de se rendre au lieu des cultes pour prier en communion avec leurs frères et sœurs, comme à l'accoutumée lors des journées dominicales. Certaines familles de Barumbu, Kinshasa et Lingwala affirment avoir même perdu des biens de valeur emportés par les eaux des pluies, notamment les appareils électroménagers tels que les postes télévisaires et autres. C'est confié à Radio Kapi, Madame Yvonne demande au gouverneur de Kinshasa de faire avancer les travaux d'assainissement de la ville.
La pluie est inondée sur Kabamba, commune de Lingwala, Barumbu, Kinshasa. Nous sommes vraiment inondés dans toutes les maisons. Tous les caniveaux de Bichakuchaku pleins. Maintenant, on va aller où? On demande au gouvernement d'intervenir.
Pour sa part, Soleil Molicho, la vingtaine révolue, plaide pour l'accélération des travaux de tirage des caniveaux.
Nous demandons au gouvernement provincial d'essayer un peu d'accélérer les travaux, les tirages des caniveaux. Et cela nous empêche de mieux vivre et de mieux exercer nos activités.
Pendant ce temps, les eaux stagnantes, combinées aux tas de déchets, créent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques, augmentant ainsi les risques de paludisme et diverses autres maladies hydriques.
Je le disais au titre, au Nord Kivu, au moins 88 écoles et 55 000 élèves ont été affectés par l'insécurité dans plusieurs zones de santé depuis le mois de novembre de l'année dernière. C'est le Parlement d'enfants pour la partie Grand Nord Kivu qui a révélé ces chiffres samedi dernier à Beni. C'était lors d'une formation à la protection de l'enfant, au plaidoyer et à la communication en matière de protection de l'enfant organisée. La chef intérimaire du bureau provincial du genre, famille et enfants demandent l'implication des autorités pour améliorer les conditions d'étude de ces enfants, dont près de 18 000 sont des filles. Ruth Sabouni explique au micro de Marc Marofimbo.
C'est un chiffre alarmant qui ne peut que toucher le cœur des parents ou bien une autorité responsable. Nous saluons le courage de ces enfants qui ont plaidé pour la cause de leurs semblables, qui sont victimes de déplacements dans notre province, qui n'arrivent plus à fréquenter les écoles comme eux. Il y a aussi certains projets qui sont exécutés. Là, je prends le cas du projet Star RDC qui va prendre aussi à compter ces infrastructures. En tout cas, je suggérerais à ce que ça soit une priorité parmi tant d'autres qui seront construits dans notre zone, bien dans notre province, que les autorités gouvernementales ou bien les responsables de ces projets voient comment ils vont réhabiliter certaines écoles, même construire. Donc, aux autorités locales de disponibiliser les espaces pour la construction de ces écoles, pour la récupération de ces enfants qui souffrent et qui ne bénéficient pas de leur droit qui est fondamental.
Dans un autre registre, l'accord de paix et économique conjointement signé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à Washington, en présence du président américain Donald Trump, continue de susciter des réactions. C'est le cas dans la province du Haut-Uele où les partis politiques Action pour le renouveau et le développement du Congo RDC, en synergie avec l'association dénommée les amis du gouverneur Jean Bakomito Gambou, sont descendus dans la rue hier pour soutenir cette initiative historique visant les retours de la paix sociale dans l'est de la RDC. Dans une déclaration faite samedi à Ouacha, les membres de ces structures soutiennent les démarches diplomatiques du président de la République pour stabiliser les institutions politiques en République démocratique du Congo. Un extrait de cette déclaration lue par Maurice Tamilé, porte-parole des circonstances, a été recueilli par Jacques Moukonkole.
La décision des autorités nationales sur l'accord de paix démontre l'engagement en faveur du développement exclusif et du bien-être de la population du Haut-Uele. Nous réaffirmons notre disponibilité à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre programme d'action, en particulier dans les domaines prioritaires liés à la promotion de l'entrepreneuriat, au soutien aux activités économiques ainsi que valorisation des initiatives communautaires. Nos associations restent mobilisées pour travailler en synergie avec les autorités provinciales afin de renforcer la cohésion, dynamiser le climat économique et soutenir les réformes nécessaires à la réussite de votre mandat. Nous encourageons votre excellence à poursuivre avec détermination votre mission au service de la province. Soyez rassurés de notre loyauté, collaboration et notre engagement citoyen à vos côtés.
En Ituri, pendant ces temps, la MONUSCO, la police nationale congolaise ainsi que plusieurs organisations internationales et nationales s'engagent à créer un environnement sûr, juste et inclusif pour les femmes. Une mobilisation qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles dont les femmes restent les principales victimes dans la province. Ce samedi matin, une centaine de membres de ces institutions ont participé à une caravane pédestre et motorisée dans les rues de Bounia pour sensibiliser la population et dire non aux violences sexuelles sous toutes leurs formes. Isaac Rémoyopé pour plus de détails.
Des casques bleus policiers de la MONUSCO, mais également des éléments de la police nationale congolaise, ainsi que des agents d'ONG, hommes et femmes, ont marché de l'aéroport jusqu'au camp de Romont, soit près de 3 km. En tête du cortège, les chefs du bureau de la MONUSCO et les commandants des casques bleus pour le secteur nord de la force, tous vêtus de polos orange. Les participants brandissaient des banderoles portant les messages « Pas d'excuses pour les violences sexuelles ». Objectif, mobiliser les habitants des Bounia à s'impliquer dans la lutte contre ces violences qui brisent des vies, détruisent des familles, fragilisent des communautés et menacent la paix. La responsable de l'UNPOL, Annie Toury.
La violence basée sur les genres brise des vies et menace la paix. C'est pourquoi notre action doit rester ferme, cohérent et continue.
Pour les chefs des bureaux de la MONUSCO en Ituri, il est urgent de multiplier des actions concrètes, notamment l'éducation et la sensibilisation pour soutenir les victimes et renforcer la prévention. Josiah Obat.
Signaler, sensibiliser, éduquer et soutenir. Voilà les actions concrètes que nous devons porter ensemble. En marchant aujourd'hui, nous envoyons un message fort. Nous refusons les violences sous toutes
les participants ont réaffirmé leur détermination à protéger les personnes les plus vulnérables et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans le même ordre d'idées, dans la province du Maniema, l'ONG Tear Fund, en partenariat avec le bureau diocésain de développement communautaire de l'église anglicane, vient de former les leaders communautaires et religieux dans les territoires de Bounia sur la prévention des violences sexuelles basées sur les genres. C'était dans le cadre du projet Appui d'urgence en cache et protection des communautés vulnérables affectées par les conflits armés dans le territoire de Punia en province du Maniema. Financé par Star Network, ce projet avait pour but, entre autres, d'outiller les participants des notions sur la prévention des violences sexuelles basées sur les genres et comment orienter les victimes. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Plus de 120 leaders communautaires, dont 50 femmes, ont bénéficié de ces notions sur la prévention de violences sexuelles basées sur le genre. Tous promettent de bien vulgariser les matières apprises.
La première des choses, c'est ce qu'on nous a enseigné, les sortes de violences, le facteur, qui sont les acteurs, les référencements. Merci, j'étais très ignorante sur cette matière. Et je promets de sensibiliser ma communauté sur ce que je viens d'apprendre.
Ce qui m'a impressionné encore davantage, nous avons parlé de la masculinité positive et de la féminité positive.
Une grande satisfaction pour le chef de ce projet, Kabemukunda Jean-Pierre.
Pour prévenir les abus de violences sexuelles basées sur les genres et outiller les leaders communautaires comment référer les cas des victimes constatées. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes organisés à renforcer les capacités des leaders communautaires et religieux dans le cadre de bien vivre dans la communauté. Nous recommandons aux participants d'aller vulgariser pour que ça donne un changement positif dans la communauté de Punia.
Signalons que cette formation a duré 8 jours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Près de 2000 diplômés ayant obtenu 80% à l'examen d'État édition 2024-2025 ont passé le samedi 2 décembre le test de sélection pour bénéficier de la bourse Excellencia RDC du gouvernement congolais. Cela dans 6 villes du pays, à savoir Lubumbashi, Matadi, Kananga, Kisangani, Kolwezi et à Kinshasa. Dans la capitale, les candidats se sont retrouvés très tôt le matin dans les locaux de l'Institut National des Arts pour passer les épreuves de français, anglais, culture générale et mathématiques organisé par la fondation LONA. Les détails avec Jody Daniel Kachama.
Vous avez été sélectionné pour bénéficier d'une bourse qui va vous permettre de poursuivre votre cursus. On vous souhaite bonne chance. On espère que ça va bien se passer pour vous.
Travaillez dans l'intégrité. L'avenir est à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.
C'est avec ces mots que le VPM de l'Intérieur et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ont encouragé les candidats à la bourse Excellencia RDC. L'excitation était palpable. À l'issue du test, les élèves Mwamba Kanyinda et Mutumo Sigracia, ayant obtenu respectivement 86 et 81% à l'examen d'État, se sont exprimés en ces termes.
Ça s'est très bien passé. Moi, ce que je rêve, c'est la bourse internationale parce que je bossais pour avoir cette bourse. Vous me voyez, je suis confiant, je n'ai pas peur parce que je sais ce que je viens de faire là-bas.
Ça a été abordable, précisément les français, l'anglais, la culture générale, lui aussi. La mathématique, on nous a laissé 25 minutes, 25 questions. On a pu répondre à ce qu'on connaissait sur 100 questions, j'ai pu répondre à 83 corrects.
Après la correction de ces tests internes de la Fondation LONA, les candidats qui obtiendront 70% et plus seront éligibles à la bourse qui couvre les études dans les universités locales et international.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo où l'association du personnel scientifique de l'université de Kisangani, ISUKIS, vole au secours de ses membres. Il s'agit de ceux dont les travaux de mémoire et de doctorat sont sanctionnés par une décision rectorale pour être défendus publiquement. Cette initiative, une première dans les milieux universitaires locaux, a pour objectif de soutenir les assistants des chefs des travaux de manière concrète dans les efforts de recherche de ses membres. La cérémonie d'octobre de cette bourse a été rehaussée de la présence du recteur de cette alma mater, le professeur Mathieu Kirongozi Bometa. Le point avec Jacques Moukonkole.
Généralement, bien des membres du personnel scientifique éprouvent des difficultés, notamment d'ordre financier, pour parachever leurs travaux. Quelques-uns n'hésitent pas à mettre en vente certains de leurs biens de valeur pourvu que la situation soit décantée. C'est dans ce sens que la SUCU se décide de les appuyer, comme l'explique leur président Guy Bousset.
Cette bourse est un soutien, mais aussi un encouragement. Elle peut paraître minime aux yeux de certains, Cependant, ce qui est sûr, elle témoigne de la confiance que l'Assoukis place en vous et de sa volonté de vous accompagner.
Dans cet élan de solidarité, Guy Bousset sollicite également l'intervention de l'Université de Kisangani en faveur des candidats au diplôme de DES et de doctorat, l'objectif étant d'arriver à couvrir les frais totaux des dépôts de leurs travaux. Tout en félicitant l'Assoukis pour cette initiative, le recteur de l'UNIKIS, le professeur Mathieu Kirongo Zibometa, l'exhorte à sa pérennisation.
Cette cérémonie peut sembler anodine pour d'aucuns, mais en réalité, elle rappelle les devoirs de tout personnel scientifique à la détermination, à la productivité et à l'émulation.
Par ailleurs, le recteur de l'UNIKIS rassure le personnel scientifique de la détermination du comité de gestion à les accompagner dans l'avancement en grade, mais aussi à combattre les antivaleurs tendant à nuire à l'image de l'université. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les agents de l'administration du ministère des Finances se sont réjouis de l'élargissement du prélèvement de 4% de leur salaire à leur prime. Cette réforme a été instaurée par l'État congolais via le ministère de la fonction publique. Selon le président de la délégation syndicale du ministère des Finances, Patrick Kalombo, cette retenue, considérée comme une contribution, permettra à ces fonctionnaires de l'État de percevoir une bonne cagnotte lors de leur mise en retraite. Cette nouvelle réforme a été expliquée hier vendredi à Kinshasa lors d'une rencontre et d'échange entre la délégation syndicale de l'administration du ministère des Finances et les agents. Les détails avec Josué Kefebe.
L'élargissement de ces prélèvements de 4% du salaire à la prime des agents a suscité plusieurs inquiétudes. Ainsi, la délégation syndicale du ministère des Finances a organisé cette journée afin de justifier cette réforme qui touche à la rémunération de ses fonctionnaires pour apaiser leurs esprits. Patrick Kalombo explique.
Nous avons voulu communier aujourd'hui avec la base pour expliquer certaines zones d'ombre qu'il y avait autour de certaines questions qui touchaient à la rémunération des fonctionnaires.
La retenue des 4%, elle est avantageuse pour les fonctionnaires et l'élargissement de cette retenue jusqu'au niveau des primes, c'est aussi un autre intérêt.
À leur tour, les fonctionnaires se sont réjouis, comme dans le cas d'Anaclé Lukouke, agent à l'administration du ministère des Finances, qui souligne que cette réforme est très importante.
Oui, j'ai apprécié la proposition de 4%. Pourquoi ? Les fonctionnaires qui demandent la retraite précoce, c'est la disponibilité de ces caisses sociales-là. En tout cas, c'est très important ici, en République démocratique du Congo.
D'après le chef de division du ministère de la fonction publique, Kiaka Eridie, le ministère a placé un site web qui permettra à tout agent régulier identifié de suivre l'évolution des 4% prélevés dans leur salaire et leur prime.
Actualité internationale.
Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir démis de ses fonctions Patrice Talon, qui devait passer la main en avril prochain après 10 ans au pouvoir. L'entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que Patrice Talon est en sécurité. Après plusieurs jours d'accalmie dans les assauts djihadistes contre les convois de carburant qui ont permis une amélioration de la situation dans les stations-service de la capitale, au moins 15 camions citernes ont été incendiés à proximité de la localité de Bougouni dans le sud du pays samedi 6 décembre. L'attaque a une fois de plus été revendiquée par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Nous sommes au Mali.
L'invité.
Dans la ville de Beni au Nord Kivu, environ 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers des activités génératrices des revenus grâce au projet Star Est, stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Le lancement des activités a eu lieu jeudi 4 décembre 2025 à Beni. Pour en savoir plus, nous recevons le coordonnateur provincial de Star Est, Jean-Claude Kasomo, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Jean-Claude Kasomo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur provincial de Star Est. Que peut-on retenir de ce nouveau projet que Star Est vient de lancer?
Bon, il ne s'agit pas d'un nouveau projet. Il s'agit juste des activités d'une sous-composante de la deuxième composante du projet. Nous avons normalement 6 composantes. La deuxième composante porte sur la réintégration à base communautaire, qui a 3 sous-composantes. La première porte sur les travaux à haute intensité de main d'œuvre où nous réhabilitons des routes et les bénéficiaires, notamment la population bénéficiaire, travaillent dans la réhabilitation et bénéficient de $400 et ils travaillent ensemble avec les ex-combattants. tandis que la deuxième sous-composante porte sur les subventions en espèces pour les activités génératrices de revenus. Et c'est dans ce cadre que nous situons l'activité d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui effectivement que nous lançons effectivement les débuts des activités de cette composante. Nous l'avions déjà fait à travers l'identification de certaines communautés par nous-mêmes, mais comme notre approche est les faire-faire, nous avons fini le processus de recrutement des partenaires qui vont nous aider dans la mise en œuvre de ces activités. C'est notamment Caritas Développement Goma et Remed qui ont été retenus et aujourd'hui nous sommes en train de lancer effectivement les activités. Ici au Nord Kivu, nous allons commencer par la ville et progressivement ils vont continuer par les territoires de Beni et les territoires de Lubero et après les territoires de Walikale.
Concrètement, comment ça va se passer?
Normalement aujourd'hui, c'est comme on a dit, c'est le lancement officiel pour que les éventuels, les potentiels bénéficiaires qui sont essentiellement les vulnérables puissent être informés que les activités commencent. Et comme on a dit, les partenaires ont toute une batterie d'activités qu'ils vont mettre en œuvre. Ils vont commencer d'abord par la sensibilisation et après la sensibilisation, ils vont continuer aussi par la phase d'identification de ces bénéficiaires et pour ça, ils vont s'appuyer sur les cellules de paix et de développement, des quartiers, des groupements, sur les organisations à base communautaire hein, qui sont dans ces communautés-là et sur base de ces critériums-là, il y aura l'identification et après l'identification, il y aura des petites formations et après, sur base des filières que ces bénéficiaires vont identifier. Et après, maintenant, passera l'étape de mettre à leur disposition ces subventions qu'on pourra les mettre en deux tranches. C'est de $400, mais 200 au début et 200 en cours pour nous rassurer que les fonds qui seront mis à leur disposition vont être utilisés dans les activités qui ont été identifiées par ces vulnérables.
Et quelles sont les catégories des bénéficiaires de ce projet, car vous parlez déjà des vulnérables?
Bon, nous parlons des vulnérables en général. Et moi, j'aime toujours parler des plus vulnérables, parmi lesquels il y aura des ex-combattants, des autres vulnérables, je ne vais pas les définir maintenant, mais toutes les couches possibles qui seront identifiées par nos partenaires, par les communautés, parce que je suis en train d'insister, quand je parle des communautés, à travers les quartiers. Pour nous, les communautés, ce sont les quartiers, les groupements. L'ensemble des habitants d'un groupement constitue une communauté. L'ensemble d'habitants d'un quartier constitue une communauté. Maintenant, leur structure, les organisations communautaires de base, ils ont des cellules de paix et de développement des groupements, ainsi que nos partenaires Caritas et Remède, sur base d'un certain nombre de critères. Ils vont s'asseoir et ils vont identifier, ils vont nous aider dans l'identification de ces bénéficiaires parce qu'on ne va pas prendre tout le monde. C'est pourquoi je dis des plus vulnérables qui pourront bénéficier de ces subventions en espèces pour les activités génératrices de revenus. Dans toute la zone du projet, ils sont estimés à 85 000 pour ce qui concerne la sous-composante, en attendant qu'on puisse ajouter ce qui concerne les survivants des VBG. Et dans toute la zone, c'est 85 000 que nous attendons dans toute la zone du projet.
$400 à remettre à chaque vulnérable ou bénéficiaire. Que voulez-vous apporter comme plus dans leur quotidien?
Pour certains, $400 c'est peu, mais pour d'autres, $400 c'est beaucoup. Ça dépendra de l'utilisation de ces fonds. C'est pourquoi j'ai dit qu'en amont, nous allons commencer par une formation et ces mêmes vulnérables vont identifier les filières dans lesquelles ils vont évoluer. Ce que nous attendons, c'est que c'est une opportunité qu'on donne à ces vulnérables. Nous avons dit que nous sommes un projet de stabilisation et de relèvement. Ça, c'est une occasion pour ces vulnérables de se relever. Mais tout dépendant maintenant de chaque vulnérable. Cet argent-là, ce n'est pas pour s'acheter à manger, ce n'est pas pour s'acheter des habits, mais c'est pour injecter cet argent dans une activité génératrice de revenus qui pourra permettre à ces bénéficiaires de s'y venir à leurs besoins de manière plus ou moins durable. C'est un peu ça l'objectif.
Jean-Claude Kassomo, merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité Jean-Claude Kassomo qui s'entretenait avec Marc Marofimbo. Et c'est ce qui met fin à notre journal de la mi-journée coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Sala Mwanama Kengon Swalu. Ce journal est disponible sur toutes les plateformes digitales de la Radio Kapi ainsi que sur notre site internet www.radiokapi.net.